et son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Christophe Assens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de gestion et professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors vous avez de nombreuses autres fonctions que l'on ne va pas détailler ici, mais je renvoie les auditeurs à votre site internet christophe-assens.fr pour de plus amples informations sur votre riche parcours. Il y a également des articles, il y a plein de choses à découvrir sur votre site internet. Vous êtes auteur du livre « Réseaux sociaux tous égaux, libres ou otages du regard des autres » aux éditions Debuc en 2016. Vous y traitez notamment, alors j'essaie de résumer, des conséquences peut-être de l'omniprésence des réseaux sociaux dans les institutions, dans l'économie, dans l'éducation, et du coup de ses conséquences sur notre société. Alors d'abord, Christophe Assens, j'aimerais que l'on débute cet entretien avec des définitions, pour être sûr qu'avec nos auditeurs, nos auditrices, nous comprenions les mêmes choses. Pourriez-vous nous définir ce qu'est un réseau social, pour commencer ?
Oui, alors c'est une excellente question d'entrer en matière parce que tout le monde a une vision un peu particulière de ce qu'est un réseau social. Je crois qu'il faut considérer au départ qu'un réseau social, au sens où on l'entend dans l'opinion publique, c'est toutes ces plateformes collaboratives qu'on utilise pour la communication, pour la socialisation sur Internet. Donc, en fait, on devrait plutôt parler de médias sociaux. C'est-à-dire que la nouveauté avec Internet, c'est qu'on peut mélanger à la fois le son, l'image, le texte, et qu'on peut avoir l'interactivité dans la production et dans la réception de messages. Et donc, on a un média interactif social qui s'appelle aujourd'hui le réseau social. Mais le réseau social, c'est un abus de langage. En fait, c'est un réseau de communication destiné à la socialisation et à l'information qui challenge en fait les médias traditionnels.
Voilà, donc il n'est pas né, comme on l'entend très souvent, avec les réseaux sociaux et avec Internet, justement. Il faut faire cette distinction, en tout
cas.
Le réseau social est beaucoup plus ancien, donc, que le...
Alors, effectivement, moi, j'ai tendance à considérer qu'un réseau social, c'est un réseau humain. C'est-à-dire qu'un réseau fondé sur le lien social entre êtres humains. Et donc, c'est pas forcément lié à la communication, c'est lié à la confiance. Pour moi, ce qui fonde un réseau social, avant tout, c'est la confiance. Je donne un exemple dont je parle souvent auprès des étudiants, c'est l'économie du troc. Moyen-Âge, quand il n'y a pas d'unité de monnaie, unité de valeur, les marchands vont échanger des biens. Et qu'est-ce qui fait la valeur du bien ? C'est la confiance mutuelle qui se témoigne. Et là, on est dans un réseau social, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire confiance à l'autre pour collaborer et avancer dans un projet commun. Ce qui n'est pas du tout la même chose que dans un réseau sur Internet, de communication, que je qualifierais plutôt de média social. Mais bon, peut-être pour pas compliquer vis-à-vis des auditeurs, on peut continuer d'utiliser ce terme consacré de réseau social pour parler des réseaux de communication sur Internet. Mais en ayant à l'esprit on se place sur un plan de communication et pas nécessairement sur le plan de la confiance, de la collaboration, de la solidarité, comme on peut l'imaginer dans une relation face à face.
On y reviendra justement au long de l'entretien. Alors Christophe Assens, le monde n'a jamais été aussi connecté. Il est désormais possible via de multiples réseaux sociaux d'échanger, de communiquer, de partager aussi bien avec son voisin de palier qu'avec une personne, je ne sais pas, dans le sud de la France ou même plus loin pour les polyglottes avec une Sénégalaise, une Chinoise ou encore un Norvégien. Mais si l'on en croit les dernières études, les gens sont de plus en plus seuls ou isolés. Alors comment on explique ce paradoxe ? Ce sont de faux liens que créent les réseaux sociaux ?
Ce ne sont pas forcément des faux liens, mais la construction de la vie sociale, elle ne peut pas se résumer à Internet et aux écrans qu'on utilise, à mon sens. Je crois qu'avant, quand on regardait la construction de la société, au Moyen-Âge ou plus récemment, on avait plutôt une construction société de village. C'est-à-dire qu'on entretenait des relations de voisinage avec des gens à proximité. Donc il y avait construction d'une culture, d'une identité locale. Avec la mondialisation, on parle de village mondial. Ouais. C'est-à-dire que les technologies permettent de discuter et d'échanger avec tout le monde à distance. Mais ce qui est un peu paradoxal, me semble-t-il, c'est que quand on regarde plus précisément avec qui on échange, on échange avec des gens du même village, quelque part, la même identité, la même valeur, à distance. Donc, Internet n'a pas bousculé ça. Ça n'a pas créé beaucoup plus, ça n'a pas ouvert les horizons sociaux des gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a donné la possibilité de communiquer à distance. Les gens sont toujours enfermés un peu sur leur identité, sur leur ego, de ce point de vue-là. Et deuxièmement, sur Internet, on cultive beaucoup de liens faibles, avec des anonymes aussi.
Alors qu'est-ce que c'est le lien faible ?
Alors le lien faible, c'est le sociologue américain Mark Granovetter qui l'a défini. C'est-à-dire un lien qui peut être de nature distanciée, éphémère, qui n'a pas de portée affective. Mmh. Et donc, ce sont les relations qu'on entretient avec des anonymes. Et sur les plateformes collaboratives, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que plus on veut avoir d'audience, de notoriété, de reconnaissance, un peu comme un youtubeur ou un influenceur, et plus on est obligé de cultiver des liens faibles, parce qu'on est d'une certaine manière victime du modèle d'affaires des écrans publicitaires. Mm-hmm. Donc il faut faire de l'audience. Et donc l'audience, ça veut dire qu'on entretient des liens quantitatifs et pas qualitatifs. À comparer avec les liens forts, ce sont les liens de proximité, affectifs, la famille, absolument, le lien du sang, le lien de confiance, de proximité avec des amis, qui fait que on va avoir bien entendu un nombre beaucoup plus restreint d'amis, mais avec des relations qualitatives qui sont beaucoup plus fortes.
Dans votre ouvrage, Christophe Assens, vous nous expliquez également, d'ailleurs c'est un mot qui apparaît dans le titre du livre, l'ego, que les réseaux sociaux sont censés développer le partage et la communication entre les personnes, mais c'est tout autre chose qui se développe dans la société actuelle, plutôt l'individualisme, le narcissisme et l'égocentrisme, dont un des éléments, c'est un exemple, hein, mais un des éléments les plus flagrants, c'est le selfie. Alors, en quoi les réseaux sociaux développent-ils l'ego, justement ?
Alors, je crois que ça, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de se sentir exister. Et d'autant plus les jeunes générations qui sont en construction d'une identité sociale. Donc, bien évidemment, tout le monde a besoin de reconnaissance. Et de tout temps.
Oui, c'est pas spécifique aux jeunes, vous voulez dire. Oui.
C'est pas spécifique aux jeunes. C'est spécifique. Tout le monde a besoin de se sentir utile dans la société, de se sentir reconnu. Aujourd'hui comme hier. Hier comme demain. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de considérer Internet un peu comme le nouveau miroir des vanités, c'est-à-dire qu'on se regarde dans un écran comme le nouveau miroir des vanités et on essaye de présenter une image idéalisée de soi pour satisfaire la reconnaissance sociale, l'empathie, l'adhésion à un groupe. Et bien évidemment, ça peut poser un problème parce que cette construction de l'identité sociale à travers Internet, la recherche de l'ego, elle est un petit peu artificielle parce qu'elle est conditionnée par les modèles d'affaires des plateformes collaboratives, parce qu'elle est conditionnée aussi par une image idéale de personnalité, parce qu'elle est conditionnée un petit peu par les codes de la publicité. C'est-à-dire que chacun développe sa marque personnelle un peu sous l'angle d'une marque publicitaire. Et on perd toute la richesse d'une personnalité, ses imperfections, ses défauts, ses spécificités, sa singularité. Donc on perd aussi la singularité. Et donc je crois que c'est ça qui peut-être est étonnant aujourd'hui à notre époque, c'est que on va chercher sur Internet une reconnaissance dont on a éperdument besoin. Et ça, c'est naturel, mais on le fait de manière artificielle parce qu'on n'apporte pas de vraies réponses à la construction d'identité quand on se regarde dans un miroir. Aussi technologique soit-il, aussi étendu soit-il, un écran informatique demeure un miroir. Et la construction de l'identité, elle doit aussi reposer sur des relations en face à face, sur la confrontation d'idées, sur des relations sociales dans un cadre professionnel, familial, amical, qui peut pas se résumer à l'utilisation d'un clavier, d'un smartphone ou d'un ordinateur. Donc je crois que c'est je dirais, cette problématique que l'on rencontre aujourd'hui. La société est difficile et pour la réussite sociale, c'est compliqué. Et le réflexe qu'on peut avoir, c'est que moins on est reconnu socialement dans la société et plus on va aller chercher sur Internet ce déficit de reconnaissance qui manque. Et plus, paradoxalement, on risque de se retrouver seul face à son écran, parce que sur Internet, on diffuse des images idéalisées qui ne correspondent pas à la véritable personnalité et qui ne permettent pas de nouer des liens forts tels qu'on pourrait l'imaginer dans le cadre familial ou amical.
Vous dites notamment que, page 51 de votre ouvrage, que ça oui. crée de nouvelles distances sociales plutôt que d'en créer.
Oui, parce que on va voir se produire des bulles de narcissisme collectif, des bulles d'individualisme collectif. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, les pages Facebook, les groupes d'amis, cultivent beaucoup d'entre-soi. Et donc, le problème, c'est que à force de cultiver l'entre-soi à partir de son écran de téléphone, on ne se donne plus la peine de découvrir autre chose et de regarder des gens différents, de discuter sur des débats où on n'est pas forcément d'accord. Et donc c'est plus confortable, bien évidemment, de rester dans un groupe d'amis confortablement à distance en plus sur son écran de téléphone, en se disant de toute manière j'ai raison puisque les autres me donnent raison et que moi-même je leur donne raison. Donc on a un petit peu cette tendance un peu paresseuse à rester dans ces points de repère, à projeter ces points de repère sur Internet et à accentuer le phénomène peut-être de clivage et de distance sociale qui peut exister entre un groupe et un autre. Et c'est peut-être un des phénomènes paradoxaux et inquiétants d'Internet. C'est-à-dire que au lieu d'aller retrouver un élan de liberté et de solidarité nouveau, on recrée des formes de chapelle ou de féodalité qui n'existaient pas avant.
Encouragé d'ailleurs par les réseaux sociaux, hein. J'ai en mémoire un reportage récent sur France 2, me semble-t-il, où était très bien expliqué comment Facebook, justement par les algorithmes, confortait des personnes dans leurs idées préconçues ou dans leur voilà oui. des jugements qu'ils avaient déjà oui. sur certains faits de société voilà en leur en remettant oui. les mêmes vidéos de oui. mêmes personnes ou en tout cas sur voilà.
Oui, ça c'est un aspect important effectivement de l'explication oui. C'est-à-dire quand on regarde un peu les techniques marketing oui. marketing donc pour vendre des produits à partir de la publicité, ça consiste à segmenter la population, donc à classer les gens en fonction de leur mode de consommation, de leur style de vie. Et ça, Facebook peut tout à fait le découvrir à partir des bases de données sur les échanges. Et donc, renforcer cette segmentation et ce ciblage, effectivement, à partir des discussions, et donc entretenir le repli sur soi des groupes sociaux. Parce qu'il y a un intérêt, bien entendu, marketing, parce que ça permet de cibler de façon plus efficace les publicités. Ça permet d'avoir des croisements d'avis entre utilisateurs consommateurs plus précis, plus pertinents sur le plan de la publicité et du marché. Mais bien évidemment, à force de faire cette segmentation et ce ciblage commercial, on empêche peut-être les utilisateurs de Facebook ou d'autres plateformes collaboratives d'ailleurs, de sortir un petit peu de la facilité et de découvrir l'étendue ou la diversité des choix de société ou des choix de consommation d'ailleurs.
Christophe Assin, c'est notre invité dans Marmite fait son actu, donc auteur du livre « Réseaux sociaux, tous égaux, libres ou otages du regard des autres ». Alors Christophe Assin, les réseaux sociaux, la question que j'aurais pu vous poser d'ailleurs, c'est comment on en sort de tout ça? Mais bon, ce serait peut-être pour la conclusion, question très ouverte. Alors les réseaux sociaux jouent également un rôle majeur en politique. car ils permettent de partager des idées. Certes, mais là encore, c'est un faux semblant, puisque vous nous dites que les réseaux sociaux développent l'entre-soi et confortent chaque individu dans ce qu'il croit déjà et dans ce dont il est convaincu. Est-ce qu'on pourrait aller même jusqu'à dire que les réseaux sociaux sont suffisamment puissants pour influencer, par exemple, une élection, comme ça a été dit pour l'élection aux États-Unis de Donald Trump, par exemple ?
Oui, alors, c'est tout à fait juste. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, par facilité et puis par effet générationnel, la plupart des gens vont collecter des informations avant de prendre une décision politique. Donc les citoyens avant une élection vont collecter ces informations sur Internet et à partir des réseaux sociaux. C'est un phénomène générationnel qui s'accentue. J'ai pas le sentiment que les jeunes générations écoutent nécessairement la radio, sauf Marmite FM, bien évidemment, ou regardent la télévision, ou lisent des journaux. Donc le moyen de s'informer, c'est les réseaux sociaux. Et donc à partir de là, il peut y avoir effectivement des dérives. C'est-à-dire que souvent dans les élections politiques, les dernières élections politiques, on voit des formes d'ingérence, c'est-à-dire de manipulation de l'opinion publique à partir de fake news ou de désinformation ou de contre-vérité. Un exemple que j'ai en tête, c'est le Brexit, la sortie d'Angleterre de l'Europe. Il s'avère que les fake news, durant cette période de choix électoral, de référendum, pour les Anglais, les fake news avaient autant d'audience, si ce n'est plus, que des vérités avérées, c'est-à-dire sur les conséquences de la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Europe. Et finalement, on s'aperçoit de plus en plus qu'au moment des élections, les citoyens préfèrent croire des contre-vérités, mais qui correspondent à leurs convictions ou à leurs a priori, que d'adhérer à des vérités qui peuvent être difficiles à entendre pour certains citoyens. Et donc, là, on sort d'une démocratie, où les débats proposent des choix de société clairs et transparents, vers une démocratie à la carte, où finalement, à partir des réseaux sociaux, les citoyens ont l'illusion de croire qu'ils peuvent bâtir la société à la carte qui leur ressemble le plus. Mmh. La démocratie, c'est l'expression d'une majorité. Donc forcément, il y a toujours des compromis à faire. Les réseaux sociaux ne font pas ces compromis. Ouais. Donc, effectivement, c'est un problème, je crois, aujourd'hui, sur le plan politique, comment on arrive à faire gagner en maturité l'expression de débat politique sur les réseaux sociaux. C'est pas simple.
Parce que quand on prend l'exemple de Donald Trump, par exemple, il maîtrise que beaucoup de médias français présentent un peu comme un idiot. Voilà. Mais je pense qu'il maîtrise parfaitement l'art, si on peut parler d'art, des réseaux sociaux, parce qu'il sait que notamment beaucoup de personnes vont peut-être avoir une attention de 30 secondes, d'une minute. Absolument. Il utilise des mots forts, il sait parler au côté émotionnel peut-être des personnes, donc c'est efficace.
Oui, alors voilà, il ne faut pas peut-être porter du jugement de valeur sur tel ou tel acteur politique en fonction des programmes. Si on reprend l'élection de Donald Trump, il a été élu sur la base d'une campagne qui était cohérente, construite de manière intelligente, quelles que soient les idées qu'on peut porter sur son programme. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme un candidat anti-système, donc contre tous les médias traditionnels. Donc il a utilisé les réseaux sociaux pour contourner la censure supposée des médias traditionnels. Et puis surtout, il a utilisé ce fameux ciblage commercial, marketing, publicitaire dont je parlais, c'est-à-dire qu'il a ciblé des électeurs indécis dans les États clés et il leur a délivré des messages via Facebook à des moments clés de la campagne pour faire basculer ces États indécis et des électeurs également indécis. Donc sur une petite minorité effectivement d'électeurs, il a réussi à retourner le résultat électoral au niveau des grands électeurs américains, et même si, sur le plan du suffrage universel, il n'a pas la majorité de citoyens.
Il a moins de voix.
Voilà. Mais effectivement, il a utilisé très habilement, avec d'ailleurs, pas lui spécifiquement, mais son gendre, Jared Kushner, qu'il a aidé fortement à maîtriser les outils de communication digitale pour emporter les élections. Et j'irais même plus loin, j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'il n'est pas possible pour un acteur politique de gagner le pouvoir sans utiliser de manière intelligente les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça est devenu incontournable.
Barack Obama l'avait fait d'ailleurs dans sa campagne.
Alors, il l'avait fait pour une raison un petit peu différente. C'était pas le candidat anti-système. Il était porté par le Parti démocrate. C'était quelqu'un de brillant, talentueux, qui avait tout le parti derrière lui. Mais il voulait pas être tributaire du lobbying militaro-industriel pour le financement de la campagne. Et donc, il avait levé des fonds sur Internet par un appel aux dons, ce qu'on appellerait aujourd'hui du financement participatif. C'était très avant-gardiste à l'époque. Mais comme Donald Trump, il a également cultivé son image de marque politique sur les réseaux sociaux pour accompagner son élection. Alors pas sur Twitter, mais sur Facebook. Les outils technologiques changent en fonction de la mode ou de l'audience, mais la manière de faire de la politique, quelque part, entre Donald Trump et Barack Obama, était un peu similaire dans l'utilisation des réseaux sociaux pour dépasser, pour emporter une élection qui n'était pas forcément gagnée d'avance. Donc je crois que c'est la leçon qu'on peut retirer, et surtout en ayant à l'esprit, en disant que le marketing politique tel qu'on le voit aux États-Unis, bien évidemment, il est transposé en Europe, il est transposé dans le reste du monde quelques temps après.
Alors, dans votre ouvrage, Christophe Hassens, page 67, vous nous dites que ces réseaux sociaux peuvent représenter un baromètre en temps réel de l'opinion publique. Est-ce que les réseaux sociaux sont-ils représentatifs de l'opinion publique, pardon ? Vous dites en un temps, voilà, peut-être que c'est en temps réel, mais est-ce qu'on peut leur opposer, ou en tout cas leur faire la même critique que l'on fait, par exemple, au sondage ?
Alors,
est-ce que c'est une fausse opinion publique qui se crée sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'elle est vraiment représentative ?
Alors, c'est un vrai débat, très intéressant, et on peut dire une chose et son contraire sur le sujet. C'est-à-dire, on peut très bien dire, non, c'est pas représentatif, puisque il y a des tentatives d'influence, de désinformation, de manipulation de l'information. Et d'ailleurs, dans les équipes de campagne politique, il y a toujours des spécialistes des réseaux sociaux pour alimenter
des community managers
pour alimenter des flux d'informations dans le sens du candidat, etc. Donc de ce point de vue, on peut se dire bon, les réseaux sociaux sont pas forcément le reflet de l'opinion publique. Néanmoins, si on regarde les sondages par quota, statistiquement, ils sont rarement représentatifs de l'opinion publique. Ouais. Pourquoi ? Parce que le seul moyen statistique, et je ne vais pas entrer dans des détails techniques qui n'intéressent pas nécessairement l'auditeur de Marmite FM, mais le seul moyen de généraliser l'opinion d'un échantillon sur la majorité de la population, c'est ce qu'on appelle le tirage aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder par une méthode d'échantillonnage par quota comme on le fait avec tant de catégories de vieux, de jeunes, etc. Au contraire, on doit partir sur la base électorale. Je sais pas, 30 millions, 40 millions de personnes en France. Et dire chaque personne a une chance sur 30 millions ou 40 millions d'être tiré au sort pour faire partie de la base d'échantillons. On le fait pas. À partir du moment où on le fait pas, on se rend compte qu'il y a, à ce moment-là, des instituts de sondage nouveaux qui vont recueillir sur Internet l'analyse des rumeurs, l'analyse du bruit numérique.
Des tendances.
Et à partir de ça, extrapoler et parfois trouver des résultats plus proche de la réalité électorale que les sondages classiques. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire attention, et je crois que plus les années passent, plus le citoyen s'informe, dialogue sur le réseau social, et moins le média traditionnel devient une source d'information ou un reflet de l'opinion publique, me semble-t-il.
Alors pour parler peut-être, Christophe Assens, de manière plus positive, oui. Non pas qu'on en ait parlé de manière négative, mais non. Des réseaux sociaux, vous donnez l'exemple de l'économie collaborative que ces réseaux sociaux permettent de mettre en œuvre. Alors ça peut être l'échange de maisons, du covoiturage, de la colocation, du bricolage. C'est plutôt positif selon vous, même si c'est très critiqué. C'est considéré comme de la concurrence déloyale. Par exemple, si on prend l'exemple des échanges de maisons, c'est critiqué par les hôtels qui considèrent ça comme de la concurrence déloyale. Voilà, c'est peut-être une fin programmée, en quelque sorte, de certains intermédiaires.
Oui, c'est-à-dire qu'avec Internet, on a deux phénomènes. C'est la dématérialisation, et on en a parlé, dématérialisation du lien social, et la désintermédiation. Alors, c'est pas tout à fait d'ailleurs une désintermédiation, parce que toute l'économie collaborative dont on parle, on s'aperçoit qu'elle est organisée par une plateforme. Mmh. Donc c'est une réintermédiation. Mmh. On a de nouveaux intermédiaires. Alors, ce qui change, à mon avis, c'est qu'on passe d'une logique de marché à une logique de réseau. Dans la création de valeur. C'est-à-dire qu'on considère que la collaboration entre particuliers, que l'échange, la collaboration, devient une source de création de valeur. Et ça, c'est effectivement très moderne. On ne reviendra pas en arrière. Donc, s'il y a une distorsion de concurrence, il va falloir réglementer sur ce sujet, sur le plan juridique, fiscal. Mais de toute manière, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'aperçoit que, si on regarde à travers le monde, 95-97% des entreprises sont des toutes petites entreprises, des PME ou toutes petites entreprises, que l'entreprise individuelle, le fait que chacun s'érige en entrepreneur, ça devient de plus en plus une norme mondiale, que les outils digitaux permettent de le faire, c'est-à-dire que chacun peut effectivement devenir sa propre entreprise. Ce phénomène, il faut pas en avoir peur. Il faut au contraire considérer que ça peut avoir des vertus, notamment quand on pratique l'échange, le partage de biens d'occasion. D'une certaine manière, on évite peut-être d'accélérer les problèmes de transition énergétique, écologique. Et donc il peut y avoir aussi des vertus à cette économie collaborative. Effectivement, je crois qu'il faut pas diaboliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont leur rôle dans la société, bien évidemment.
Vous dites qu'ils sont incontournables.
C'est incontournable. Internet, les outils informatiques, c'est le progrès. Maintenant, il faut le maîtriser, il faut le domestiquer. On ne peut pas être dépendant de manière aveugle de tous ces outils. On ne peut pas considérer que le téléphone va réfléchir à notre place. On ne peut pas considérer que l'ordinateur va être plus intelligent que l'homme. Ce n'est pas possible.
Alors, philosophons, pour terminer peut-être cet entretien, Christophe Assens, sur une déclaration de Mark Zuckerberg sur la création de Facebook notamment, où il disait avoir créé Facebook notamment pour ouvrir, permettre au maximum de personnes de se rencontrer, pour faire diminuer les extrêmes, et notamment pour rendre les gens heureux. Alors il y a une phrase que j'ai bien aimée dans votre ouvrage, moi, c'est que vous dites, en parlant de cette libération, peut-être une sorte de libération comme en mai 68, vous dites que c'est un mai 68, oui, mais sponsorisé par Coca-Cola.
Oui, parce que on a l'impression, quand on va sur Internet, dans les réseaux sociaux, qu'on va retrouver un vent de liberté.
Qu'on peut tout dire.
Voilà, que tout est possible. Bon, que c'est le Far West, c'est la grande aventure. Bon, au coin de la rue. Puis si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit la communication est codifiée, qu'il y a des modèles d'affaires très puissants derrière, notamment ceux de Facebook, mais pas que. Et donc il faut relativiser. On n'est pas en train de changer de modèle de société. On est toujours dans une société fondée sur le capitalisme de marché. Maintenant, cette société, elle évolue. C'est-à-dire que les gens aspirent à être de plus en plus acteurs de la société à tous les niveaux, sur plan social, politique, économique, et donc utilise des réseaux, des formes de réseaux. Donc l'horizontalité prend de plus en plus d'importance dans la société, et c'est plutôt quelque chose de positif, je crois, parce que ça responsabilise les gens. À ce moment-là, ils sont obligés de se prendre en main, et puis de nouer des collaborations, ce qui peut être intéressant aussi. Mais il ne faut pas donner peut-être une portée trop philosophique à ce qui se passe. On n'a pas recréé pour autant une société plus vertueuse, plus formidable, plus idéale. Parfois même, on a peut-être recréer une société un peu sur la base de 1984 de George Orwell, c'est-à-dire une société où la surveillance mutuelle organisée à partir des outils,
ce qui est plutôt inquiétant,
crée une forme parfois de totalitarisme de la pensée. Donc attention, alors peut-être c'est là où on avait abordé ce sujet un peu dans le cours de l'entretien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour utiliser au mieux? Je crois qu'il faut les outils, il faut considérer, je dis toujours, c'est un peu comme un marteau. Avec un marteau, c'est un outil, on peut taper sur la tête de son voisin ou enfoncer un clou et bricoler. Donc l'outil, c'est l'utilisation qu'on va en faire qui est importante. C'est pas l'outil en lui-même. L'outil en lui-même, il est ni bon ni mauvais. L'utilisation. Et pour faire une bonne utilisation des outils informatiques et d'Internet aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre le temps par moment de se déconnecter et de retrouver également des moments où on n'est pas soumis au diktat de la technologie ou du regard des autres. Et donc, où on peut prendre le temps de réfléchir sur soi, où on peut prendre le temps aussi de la lecture, c'est-à-dire de retrouver la culture de l'écrit et pas uniquement la culture de l'image. Donc tous ces éléments, tous ces temps de pause dont nous avons besoin pour avoir une utilisation plus sereine des outils, je crois que c'est ça qui est important. C'est dans la modification des usages collectifs qu'on va trouver de la modération et qu'on va mettre à leur bonne place ces nouveaux outils de communication.
Merci Christophe Assin. Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs que vous êtes docteur en sciences de gestion et professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, entre autres choses, et que vous êtes l'auteur du livre « Réseaux sociaux, tous égaux, libres ou otages du regard des autres », paru aux éditions Debuc en 2016. Merci pour cet entretien.
Merci à vous, hein. J'étais très heureux de m'exprimer pour les auditeurs de Marmite FM.
Merci beaucoup. Marmite fait son actu, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau direct, toujours à la même heure, à 17h. Bonne suite de programme sur Marmite FM 88.4.
Marmite fait son actu, tous les mercredis de 17h à 18h, en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.